On sait, Bezrat Hashem, le chapitre 24 du Tanya. C'est un chapitre qui va être très concret. Donc pour ceux, je ne sais pas quelle page c'est dans le...
Ah, moi, je viens de la fermer, c'est vers la fin.
Donc, chapitre 24. C'est un chapitre qui est très concret. 294. Autant dans le chapitre d'avant, on a parlé comment, quand un juif faisait une mitzvah, il s'attachait avec Akadosh Baruch Hu. Et comment, en vérité, d'une mitzvah dépendait le fait qu'on va s'attacher avec l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, comme on avait expliqué longuement la semaine dernière. Ça, c'est le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire accepter le fait qu'il y a la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, et que la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unicité d'Akadosh Baruch Hu qui couvre tout. Autant, hein, on va expliquer maintenant, bonsoir. Autant on va expliquer maintenant, Chodesh Tov, le second commandement. Premier commandement, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Second commandement, c'est tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Et là, on va essayer de s'arrêter sur le second commandement. En quoi c'est un commandement? Et en quoi ce commandement, qu'est-ce que ce commandement rajoute par rapport au premier commandement? Si le premier commandement a dit je suis l'Éternel ton Dieu, donc ça veut dire que j'ai qu'un seul Dieu.
Oui.
Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. C'est comme si je te dis par exemple, je te dis, tu vas acheter un produit de telle marque, et tu n'achèteras pas un produit d'une autre marque. Dans la première sentence, il y avait déjà la deuxième sentence. D'accord? Dans la première mitzvah, qui était « Je suis l'Éternel, ton Dieu », il y avait déjà la deuxième. Première question. Deuxième question.
Non, pour les autres nations, il a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu ».
Ah non, pour l'instant, il parle pour nous. Pour l'instant, il parle pour nous. C'est une première question. On veut comprendre ce qui se passe. Deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis tu n'auras point d'autre Dieu à part moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un autre Dieu à part Akadosh Baruch Hu?
Les goyim y pensent.
D'accord. Je parle pas des goyim, je parle de nous maintenant.
Est-ce que
c'est un challenge? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Akadosh Baruch Hu, il parle maintenant à un peuple qui est sorti d'Égypte. Et qui ont vu clairement que tous les autres dieux, c'était du pipeau, il valait rien du tout. La preuve, c'est que tous les autres ont invoqué leur Dieu, ça marchait pas. Et nous, on a invoqué Akadosh Baruch Hu, ça a marché. On avait une preuve devant nous. Pas besoin de se compliquer.
Plusieurs même.
Hein? Plusieurs preuves. On a eu des preuves qui ont duré pendant des mois et des années. Donc c'était clair, c'était évident. C'était évident qu'il y avait un seul Dieu et qu'il n'y a pas l'autre Dieu. Alors, est-ce qu'on a besoin de préciser maintenant, de dire que je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras point l'autre Dieu? En fait, on va essayer d'expliquer maintenant exactement comme on avait expliqué par rapport au premier commandement. Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport au premier commandement? C'est quoi le premier commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça ne veut pas dire seulement qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, ça veut dire tout est Akadosh Baruch Hu, tout est Dieu. Et que tout ce que tu vois autour de toi, tout est Dieu. Quand on dit maintenant tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, ça ne veut pas dire tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Bien sûr qu'on n'a pas d'autre Dieu à part Akadosh Baruch Hu.
Merci.
Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, mais ça on va développer longuement. Ça veut dire, tu auras un, s'il vous plaît, je termine le raisonnement. Quand on dit tu n'auras aucun Dieu à part moi, ça veut pas dire seulement qu'on n'aura aucun Dieu à part un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire beaucoup plus fort que ça. Ça veut dire, tu auras aucun élément de ta vie qui va échapper à Kadosh Baruch Hu. Et là, aujourd'hui, vous allez voir que ça va aller très très loin ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On va parler de la faute, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une Avera? Quand je fais une Avera, je me dis que j'oublie Dieu. Et j'espère que tu m'oublies aussi, pour quelques secondes.
On dit, j'espère qu'il ne nous regarde pas.
Voilà. Donc c'est pas que, c'est ça ce qui va t'expliquer. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que quand on dit tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir un deuxième Dieu. Qui a pensé 15 minutes? C'est pas de ça qu'on parle. Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, ça veut dire tu ne vas pas penser qu'à certains moments de ta vie, Dieu il est pas là. Ça veut dire que tu peux être un juif très religieux pendant 23h59 minutes. Mais il y a une minute par jour dans laquelle il n'y a pas de Dieu. Et là vient le deuxième commandement. Mais oui, c'est possible. Et là vient le deuxième commandement pour te dire « Lo yelecha elokim acherim al panai » Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Ça veut dire aucun instant de la journée tu diras « Il y a autre chose à part un Kadosh Baruch Hu. » Et ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est que si j'arrive à intégrer cette idée dans ma tête, je peux me battre contre mon Yitzharat pour n'importe quelle Avera. Parce que ça, c'est l'Avera. C'est quoi l'Avera? L'Avera, comme on va expliquer, c'est quand le Yitzharat me dit « Dieu, il a dit ça, mais toi, tu penses ça. Alors fais ça. » c'est pas présenté comme ça, mais c'est ce qui se passe. Et accepter le deuxième commandement, ça veut dire accepter qu'à aucun moment, j'aurai une prise de décision qui va échapper à Kadosh Baruch Hu. Le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu », ça veut dire que accepter que tout est Dieu. Le deuxième commandement, il s'adresse au Yetzer Hara. Le jour où ton Yetzer Hara va venir pour te raconter des bêtises, pour te mettre des bêtises dans la tête, tu te rappelleras, tu te diras qu'en vérité, il n'y a rien qui peut échapper à Kadosh Baruch Hu. Et que même si des fois, on se dit « Mais ça va, il n'a pas vu. Ah, il n'a pas vu, il n'y a rien. » Eh ben non. Ça, c'est le deuxième commandement. Et en vérité, ce deuxième commandement est un commandement qui est très compliqué, qui est même le commandement le plus compliqué. Parce que, vous savez, faire des mitzvot, c'est facile.
Alors,
non, mais attendez. Voilà. C'est facile de faire des mitzvot, on peut faire des mitzvot. Mais ne pas faire du tout d'avérot, c'est plus compliqué. On connaît plein de gens, par exemple, et nous-mêmes, qui vont faire plein de mitzvot pendant la journée, mais bon, bon un quart d'heure, ils sont laissés un petit peu aller. C'est-à-dire, ça va, il a fait plein de mitzvot.
Oui,
ce quart d'heure-là, il était plus dur que toute la journée. C'est-à-dire, ce quart d'heure-là, le combat avec les gens qui ont une fenêtre ouverte.
Ouais.
Alors, hein, je sais pas où, mais... Je sais pas où. Ce combat...
D'accord, non, c'est là, je crois, je sais pas. Peut-être c'est avec le vent, en vérité, je sais pas. Ah, c'est là-bas, elle est là-bas, là-bas.
Oh là, ça souffle.
Elle est cassée ?
Ah, mais, attends, attends. Elle est cassée la baraque
Non, de l'autre côté, l'autre côté.
Ça, ça marche, là.
Si, elle doit marcher, normalement.
Ah ouais.
Elle marche toute, hein. Il y a du vent, hein.
Ah, voilà, c'est là, c'est là, ça.
T'as pas un courant d'air, quand même, hein.
On va s'éjager,
hein.
Hein. Merde.
Si t'avais permis la flèche, t'aurais ramassé les fesses.
Bonsoir. Merde. Alors, je reprends. D'accord. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a du vent dehors, apparemment.
Ouais.
Hein.
Il va pleuvoir.
Hein.
Il y a plus de vent et plus...
Oh, c'est...
Ah ouais.
Comme la serrette à Dibrot, parce que 15 jours qu'il a donné la serrette à Dibrot, il y a eu beaucoup de vent avant. Donc je reprends. Ce qu'il va expliquer ici aujourd'hui, c'est quoi Avodah Zara.
Ah, mais ça, je peux le dire.
D'accord. C'est quoi Avodah Zara?
Non.
Avodah Zara, c'est pas le fait de croire qu'il y a un autre Dieu. Avodah Zara, c'est le fait de vouloir oublier Dieu quelques instants pendant la journée. Alors bien sûr que c'est pas Avodah Zara au sens littéral. Au sens littéral, Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Mais dans le sens profond, c'est quoi Avodah Zara? C'est penser qu'à certains moments, la journée, on oublie Dieu à Kadosh Baruch Hu.
Et on se met à sa place.
Et ce qu'il va expliquer, ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est qu'une certaine manière, se retenir devant Yitzhara pendant ce quart d'heure peut être plus difficile que toutes les mitzvot que je vais faire. Parce que c'est très, très difficile à se battre avec le Yitzhara. Surtout quand le Yitzhara dit, écoute, ça va, t'es religieux. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas par hasard, combien de mitzvot positives on a?
248.
Et combien de mitzvot négatives on a?
335.
Donc lequel on a plus, de positif ou de négatif?
Négatif.
Pourquoi?
Ah. Parce qu'il est beaucoup plus facile de...
Pourquoi il y a plus de négatif que de positif?
Il est dans le négatif que dans le positif.
Pourquoi? C'est-à-dire chez les juifs, on est plus dans le négatif que dans le positif?
C'est plus facile que de faire.
Parce que c'est plus compliqué. Mitzvah négative, c'est plus difficile à faire qu'une mitzvah positive.
Un exemple.
Ça veut dire comme ça. Faire quelque chose de bien, hein, tout le monde, on peut se convaincre de faire quelque chose de bien. Mais se retenir de ne pas faire quelque chose que j'ai envie, ça peut être très difficile. Une mitzvah négative, c'est se retenir de faire quelque chose. Tu comprends ? Qu'on va développer aujourd'hui.
Quoi, exemple,
toutes les mitzvahs négatives.
De cochon.
Toutes les mitzvahs négatives, si on te demande de te retenir de faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, on me dit non, c'est assourd.
Ah ben non, c'est...
Je me retiens de faire quelque chose. Se retenir, c'est très dur. Faire autre chose à la place, je peux le faire. Mais se retenir de faire quelque chose, c'est très dur. C'est ce qu'il explique aujourd'hui. Et ça, c'est Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire à un moment, je me dis, bon, j'arrête de me retenir. Maintenant, je me laisse aller.
Donc, j'oublie Dieu.
Ah
ouais. C'est logique.
Donc, d'une certaine manière, ça, c'est Avodah Zara. C'est ce qu'il va développer aujourd'hui. Mais attention, on va développer. Là, j'ai juste introduit. Zé, le Oumad Zé. Donc, on commence au chapitre 24. Donc, comme j'ai dit, le chapitre 24, quand on est dans la SMS, le chapitre 24 est lié très fortement au deuxième commandement de la Aseret Hadibrot, donc, au quoi il n'y a pas de hasard. Zé, le Oumad Zé, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'un à l'encontre de l'autre. De la même manière qu'on a expliqué dans le chapitre 21, 22 et 23, on a expliqué longuement le premier commandement, Shema Israël aussi, que le premier commandement c'est quoi? C'est accepter l'unicité de Akadosh Baruch Hu, comment Dieu se trouve partout. De la même manière, de l'autre côté, il y a un deuxième commandement, qui est tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Qu'est-ce qui représente ce commandement? Ce deuxième commandement est la base, Hen, Shin Samech et Mitzvot Lota Asé de Oraita. Ce deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, est la base de toutes les 365 mitzvot négatives de la Torah, v'chol isurei de rabbanan, ainsi que tous les interdits de rabbin qui sont dérivés de ces mitzvot. Me'achar shehen neged retzono v'chomato yitbarer v'ofram mamash. Et là, le Mourad Zaken, il explique quelque chose de très puissant. Il dit, comment on peut expliquer ça? On sait très bien, c'est l'Agmara qui dit ça. L'Agmara, il dit que le commandement Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu, c'est la base de toutes les mitzvot positives. Tu n'auras point l'autre Dieu à part moi, c'est la base de toutes les mitzvot négatives. Pourquoi? Le Mourad Zaken, il dit, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Il dit, c'est quoi une Avera? On va essayer maintenant de définir ensemble c'est quoi une Avera. Allez, on va faire un tour de table. Allez. Avera, c'est quoi une Avera pour vous, monsieur Berger?
Commence par les autres, que je réfléchisse un peu.
J'ai commencé par vous. Je vais entendre ce qui vous sort de la tête tout de suite. Tac au tac.
C'est faire consciemment quelque chose.
Oui.
Qui va vers quelque chose de négatif, vers le mal, qui n'est pas bon pour soi et ou pour les autres.
D'accord. Donc pour vous, une Avera, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour soi ou pour les autres.
Oui.
Donc ça, c'est la définition d'une Avera.
Pour moi, oui.
D'accord. Monsieur Barour.
Quelque chose qui est lié à la négativité, quoi.
Négativité, d'accord.
Transgresser
un interdit. Ouais, ouais. D'accord, ouais.
Oui, oui.
Toi aussi, transgresser un interdit. Toi, pour toi, ce qu'on est, Avera.
Pareil.
Transgresser un interdit. Avraham.
Transgression, pas du champ.
Bah oui.
Ouais. Toi.
Oui, la même chose.
Transgression. Alors, regarde. En fait, les gens, dans leur tête, ils s'imaginent qu'une Avera, hein, on ne fait pas une Avera parce que c'est mal.
Mais non.
Non, c'est pas ce qui est écrit. Il faut rentrer dans l'étymologie. Ça va?
Ouais,
t'as pris la pluie?
T'as pris une douche, c'est bien.
On n'est pas en Israël.
Ouais, ouais, qu'est-ce qui est tombé?
Non, en Israël aussi, j'en ai plus. Ça tombe, ouais.
Elle
voilà.
Est bien trempée, là.
Bon, on va dire c'est la bracha.
Elle a du mérite, par contre.
Ouais, ouais.
Elle a du mérite.
Elle a du mérite.
Moi, je suis venu en voiture.
T'as aucun mérite.
On va te cacher.
Alors, je reprends. On a posé la question, on a dit qu'est-ce que c'est une Avera? Quelle est la définition d'une Avera? Une Avera, beaucoup de gens traduisent une Avera par quelque chose de négatif, quelque chose de pas bien. C'est faux, c'est pas ça la définition d'une Avera. Une Avera, c'est une transgression. Dans le sens, Dieu a dit quelque chose, je ne l'ai pas fait. Par rapport à ça, il n'y a pas de différence quelle Avera j'ai fait. Je vais me dire, oui, mais c'est une petite Avera.
Oui, ça dépend, s'il y a des graves, c'est pas très grave. Ça
pas d'accord. Ça. Ils vont dire, bon, ça c'est grave, c'est pas grave. Non, c'est déjà une erreur. Pourquoi?
Non, merci.
Parce que si on rentre dans ce piège, ça veut dire qu'on a traduit Avera par mal.
Oui.
Et donc, il y a des choses qui sont très mauvaises, juste sont moins mauvaises. Mais c'est faux.
Non,
c'est pas ça, une Avera. Une Avera, c'est une transgression. Transgression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que j'ai transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Comment j'ai transgressé? Pourquoi j'ai transgressé? J'ai transgressé, c'est terminé. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Un exemple qu'on amène souvent, que je vais vous amener souvent. Imaginez, pour illustrer ce qu'on explique beaucoup en chassidoute, vous savez, on dit en chassidoute qu'il y a quelque chose qui est très puissant qui s'appelle la volonté. La volonté. La volonté, c'est quelque chose de très puissant, puisque c'est au-delà de la réflexion. Quand c'est quelque chose que je réfléchis, il y a une logique. Par exemple. Si une personne, par exemple, imaginez par exemple, votre enfant, il vous dit, j'ai un téléphone devant moi, il dit, je veux que tu m'achètes un iPhone.
Bon.
Tu vas pas lui acheter un iPhone, tu vas lui acheter un Samsung. Qu'est-ce que tu penses, Serge?
Un Wiko, mon cher.
Hein? C'est grave, c'est pas grave?
Non, c'est pas grave.
Ça dépend.
Il peut téléphoner.
Ça dépend. Si c'était une volonté logique, ça veut dire qu'il voulait quelque chose parce que ça correspondait à un besoin spécifique. Dans ce cas-là, tu peux discuter avec lui. Tu peux dire, bon, tu voulais du coca, je t'ai amené autre chose. D'accord? Tu peux discuter. Tu peux discuter avec un argument logique, avec une volonté logique. C'est-à-dire, je veux du coca parce que j'ai besoin de sucre. Bon, alors on va donner autre chose qu'à du sucre. Mais si c'est une volonté qui n'a pas de raison. D'accord? Je veux du coca parce que je veux du coca.
Oui.
Je t'ai amené du Pepsi. Est-ce que ça passe? Non, je voulais du coca. Et je donne souvent l'exemple de la femme enceinte, qui à 4h du matin, elle te dit je veux, hein, parce qu'elle veut. Elle veut un gâteau.
C'est un
d'accord? Elle veut un fraisier.
Oui.
Elle veut une fraise, d'accord? Bien sûr, c'est écrit.
Ah bon?
Même Yom Kippour, il y a des problèmes Yom Kippour, elle veut manger, qu'est-ce qu'on fait? Elle veut manger quelque chose de pas cachère, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a écrit? Ah
oui. Bien sûr, évidemment. C'est une sacana pour le bébé, c'est un danger.
Ah bon?
Bien sûr. C'est un danger de ne pas donner à la maman ce qu'elle a besoin.
Attends, demande à un jambon beurre.
C'est une question.
Ah, c'est une question que d'un
temps. Bien sûr, c'est pas simple.
Ah bon, tu mets pas le beurre, c'est tout.
Je dis n'importe quoi, mais j'exagère, mais bon.
C'est pas... Ah non, mais c'est pas simple. Il y a un risque que le bébé y part. C'est un risque de fausse couche.
C'est une blague.
Ah non, c'est très sérieux.
C'est une légende.
Mais pas du tout. C'est très sérieux.
C'est plus dans la Torah, c'est pas une légende. Moi, je crois que c'était aussi.
Je sais pas.
Pas une légende, mais
t'as vu. Ça sera pour le prochain.
Amen, ouais. Quand je suis grand-père.
Alors. Je reprends. Donc, on a dit, c'est quoi la définition d'une volonté? C'est quoi la définition d'une volonté? Une volonté, c'est quelque chose que je veux.
Comme ça, sans raison.
Maintenant, peu importe, il n'y a pas de grande volonté, de petite volonté. Une volonté, c'est quelque chose que je veux. Tu ne me donnes pas ce que je veux, ça ne marche pas. Pourquoi j'explique ça? De la même manière par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi une avéra? Une avéra, c'est une transgression. Mais c'est pas une transgression logique. C'est pas, par exemple, on va dire, il y avait un code de la route, voilà, parce que Jacqueline est là, on va dire, dans le code de la route, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres.
Oui,
peut-être. Il y a des choses qui coûtent 6 points. Hein, qu'est-ce qui coûte 6 points, Jacqueline?
Une nuit blanche.
Hein?
L'alcool.
L'alcool, d'accord. Il y a des choses qui coûtent 1 point. Par exemple?
Un excès de vitesse.
Un excès de vitesse.
Moins 10 km/h.
Pourquoi un coûte 1 point, l'autre coûte 6 points?
C'est moins grave, tu vois 56.
Parce qu'un est plus grave, l'autre est moins grave. Ça veut dire que dès le départ, la transgression était calculée. Ça veut dire qu'il y avait une raison. Pourquoi c'est interdit? Et donc, par rapport à ça, il y a des transgressions plus graves que d'autres. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais il y a une autre manière de voir les choses que Béhémeth, dès qu'il y a une transgression, c'est un problème. Ça veut dire que j'ai fait qu'à ma tête. Après, peu importe que le détail soit plus important ou moins important, mais concrètement, j'ai fait qu'à ma tête.
Et les conséquences?
Donc, ça veut dire quoi? On parle pas des conséquences, on parle de l'essence, là, pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut expliquer ici comme quoi, le deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, c'est la base de toutes les mitzvot négatives. C'est quoi une mitzvah négative? C'est quoi une avéra? Une avéra, c'est faire quelque chose qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe qu'est-ce que c'est comme avéra. Même si une avéra des rabbanan, même si je transgressais une avéra des rabbins, je dis, mais ça va, c'est les rabbins. Oui, mais attends, mais les rabbins, Dieu t'a demandé de les écouter. Je dis, oui, mais ça va, c'est pas comme si c'est écrit dans la Torah. Non, c'est la même chose. D'une certaine manière, c'est la même chose. Parce que Dieu a demandé et je n'ai pas fait sa volonté. Par rapport à ça, c'est la même chose. Quand Dieu te dit tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, ça veut dire tu n'auras point d'autre volonté à part moi. Ça c'est le chidouche aujourd'hui. Tu n'auras pas d'autre volonté à part moi. Et ça c'est très compliqué. Parce qu'on peut être très religieux mais avoir des volontés externes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, surtout dans beaucoup de courants on pense comme ça, qu'il y a ce que Dieu veut, il y a ce que moi je veux, j'essaye au maximum d'aller dans sa direction mais il y a ce que moi je veux. Viens, la Chassidut t'explique c'est quoi le sens profond du deuxième commandement. Quand on dit tu n'auras point d'autre Dieu, ça veut dire que tu n'auras point d'autre volonté à part Akadosh Baruch Hu. Dans ta tête, qu'est-ce qui te fait avancer, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il n'y a pas d'autre volonté à part Akadosh Baruch Hu. Mais on va développer encore plus profondément. Donc, Amni Fradim et Tachrit Apirut Mamash. C'est ce qu'on appelle, hein? Je rentre même pas dedans. Je rentre même pas dans ce qui était pour Dieu, pas pour Dieu. Je rentre, ce qui me dérange ici dans le côté de la Avera, c'est le fait qu'à un moment, j'ai fait quelque chose contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, je vais vous dire, c'est pour ça, vous savez, que surtout le monde de la Chassidut, on explique souvent qu'une personne qui fait une avéra en connaissance de cause, une petite avéra, même une petite avéra, c'est beaucoup plus grave qu'une personne qui fait plein d'avérotes mais sans connaître la gravité. Pourquoi? Pourtant, l'autre, il mange du porc et tout, ça n'a pas l'air de te déranger. Tu es là, le Loubavitch, tu lui fais un grand sourire, etc. Viens, mettre les tefilines. Et l'autre, fait une petite avéra, tu lui casses les pieds. Pourquoi? Quelle différence? La différence est très simple. C'est que l'autre, comme il n'est pas conscient de la gravité de ce qu'il fait, il n'est pas en train d'enfreindre la volonté de Dieu. En tout cas, il le fait pas sciemment.
Oui,
techniquement, c'est vrai qu'il fait une avéra, c'est clair, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais tu peux pas dire qu'il y a eu un conflit entre sa volonté et la volonté de Dieu, et qu'il a dit, bon, bah, c'est ma volonté qui l'a emporté. Il n'y a pas eu de conflit parce qu'il est, je veux dire, ça le parle pas, ça l'intéresse pas, il est pas né dedans. Par contre, moi qui est religieux, Baruch HaShem, quand je fais même une petite avéra,
là
c'est grave, puisque d'une certaine manière, il y a eu un conflit entre la volonté de Dieu et ma volonté, et j'étais conscient de ce conflit, et à un moment, j'ai décidé, pour un quart d'heure par jour, que c'est ma volonté qui a gagné. Et c'est très grave. Ça, c'est très très grave. C'est pour ça que la Gemara, on expliquera plus tard, hein, ça il va maintenant dans chapitre 31, que la Gemara a dit que les ignorants, leurs fautes qu'ils font en faisant exprès, leur sont comptabilisés comme des avérotes qu'ils ont fait sans faire exprès.
En le faisant exprès, elle est belle
l'affaire. Oui.
Pourquoi?
Elle est belle, c'est trop facile. Pourquoi? Hein,
c'est ça y est, on arrête tout. Hein.
Si le sable, bah oui.
Hein? Quoi?
Lui, les anciens, il y aurait la loi.
Mais celui qui ignore la loi, tu as raison.
Oui, c'est vrai, mais bon.
Tu as raison. Mais concrètement, la Gemara dit clairement, elle dit que les Amé Aretz que leurs donuts, ils sont kishgagot. Ils sont considérés. Ce qu'ils font en faisant exprès, c'est comme si ils l'ont fait sans faire exprès. J'ai pas dit que c'est bien ce qu'ils font. C'est la source ce qu'ils font. Mais c'est pour nous sensibiliser à nous qui sommes religieux. Pour nous dire qu'une certaine manière, une petite avéra à nous peut être infiniment plus grave que beaucoup d'avérotes à eux. Si vous voulez, on peut donner un exemple comme ça.
Pourquoi ?
Alors je vais expliquer, c'est très simple. Ouais. On peut donner un exemple, c'est comme par exemple, tu veux dire que ceux qui sont pas religieux, c'est comme des enfants. Et nous, on est comme des adultes. Tu comprends ? Un enfant, il peut faire plein de bêtises, mais tu pourras pas vraiment le tenir rigueur parce qu'il est pas conscient 100% de ce qu'il fait. Par contre, un adulte qui fait 1% d'une bêtise qu'un enfant fait, tout de suite, c'est très grave parce qu'il est conscient. C'est-à-dire qu'un enfant, tu vois, tout le temps, même un enfant, il fait une bêtise, il le fait sciemment, il sait très bien que c'est interdit, on dira, ah oui, mais laisse-le, c'est un enfant. Là, un enfant. C'est quoi le pchat, c'est un enfant? Ça veut dire que même s'il l'a fait en faisant exprès, d'une certaine manière, c'est comme si c'était sans faire exprès, parce qu'il n'est pas conscient de la gravité. Dites-vous que les gens qui sont loin de la Torah sont comme des enfants. C'est comme des enfants. Alors que nous qui avançons Baruch HaShem dans la Torah, qui ont défié la pluie, qui avons défié la pluie pour venir à Baruch HaShem, d'accord ?
Sans donner de...
D'accord ? Eh ben nous, on est plus des enfants, on est des adultes.
Mais dans la pratique, c'est pas comme ça.
Bien sûr, c'est comme ça.
Un Amaretz qui est Mechalel Shabbat, Bemezik Veatra, Hayavskila. Un juif religieux qui est Mechalel Shabbat,
pas du tout. Attention, il faut définir ce que c'est une Atra.
Oui, on l'a averti. On lui a dit, attention, t'es en train de Mechalel Shabbat.
Ah ben non, c'est pas...
dit...
non, ça marche pas.
Il a dit, je sais, mais voilà.
La Gemara donne un exemple. Imaginez par exemple un enfant, c'est un cas que la Gemara amène. Le cas du Tinoch chez Nishba. Il y a eu un enfant qui a été pris en captivité. C'est un vrai cas qui s'est passé. Un enfant qui a été pris en captivité lorsqu'il était bébé. Qui était nourrisson, il était pris en captivité par des goïms. Les goïms l'ont éduqué, donc il a grandi comme un goï. À l'âge de 20 ans, si mes souvenirs sont bons, ses parents ont réussi à le retrouver, ils ont payé une somme d'argent et ils l'ont récupéré. Et à l'âge de 20 ans, ils lui ont dit, bah, tu sais, tu es juif. Et tu sais, il faut faire Shabbat. Et tu sais, c'est sûr de faire ça. Maintenant, lui, il n'est pas né dedans. Donc, il n'a pas fait Shabbat.
Il n'est pas responsable.
Attendez, on l'a prévenu.
Oui.
Attends, doucement. On l'a prévenu. On l'a dit, mais tu sais, tu finiras en enfer, c'est très grave, etc. Oui. C'est assourd. Le mec nous dit, écoutez, c'est pas tranquille. Je connais pas ce que tu me dis. Imaginez maintenant que je vais arriver maintenant là. Je vous dis, Moïse, il vient de me parler. Imagine une nouvelle halakha, dorénavant, depuis demain matin. Il faut faire 8 heures de yoga par jour. Vous allez le faire?
Si j'ai entendu Moïse,
ah oui, j'ai eu Moïse, il me l'a dit, d'accord, ouais. Qu'à partir de demain matin, tu vas faire 8 heures de yoga par jour.
Il y a des mythos là.
Hein? Tu vas le faire?
Non.
Et il a dit, celui qui ne fait pas, il est passible de mort.
On va essayer de faire 10 minutes.
Hein?
Ah, mon père, il a dit ça, Shabbat. C'est Zerach, Nayacholé.
Voilà! Donc, ça veut dire quoi? Non, mais attendez, ça veut dire quoi?
Yoga, ouais.
Mais pour celui qui est loin de la Torah, c'est le jeu qui ne peut pas tenir. Donc tu peux lui répéter depuis matin, du matin jusqu'au soir, de lui dire, écoute, tu vas finir en enfer. Il dit, bon, écoute, excuse-moi, d'accord, j'entends ce que tu dis, mais ça rentre dans une oreille sur une autre. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas sensibilisé. Alors que moi qui est sensibilisé, qui est au Hachem religieux, eh ben, une petite avéra que je fais, elle vaut plus que toutes ces avérantes à lui. Elle est plus grave, parce que moi je suis conscient de la gravité de ce que je fais. Donc moi je suis un adulte. Et une gaffe qu'un adulte fait, c'est beaucoup plus grave que 1000 gaffes qu'un enfant fait. C'est pour ça qu'il dit ici. Il dit que finalement, si on devait définir en un mot une avéra, c'est quoi une avéra ? Enfreindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc une personne qui n'est pas religieux, on ne peut pas dire qu'il le fait volontairement. Il enfreint la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Moi, oui, quand je fais une avéra, je sais que Dieu me l'interdit. Je sais. Mais je dis, mais j'ai envie de le faire. On fait tous d'avérot. Je dis, j'ai envie de le faire. Donc ma volonté était plus forte que la volonté de Dieu. Très grave, ça. Ça, c'est Avodah Zarah.
Est-ce que dans l'autre sens ?
Ça veut dire quelque part, je suis devenu moi un Dieu. Non, mais c'est ça ce que ça veut dire. Mais attendez, mais c'est ça ce que ça veut dire. Quelque part, je suis devenu moi un Dieu.
Non, pourquoi
dire ? Bah oui, ça veut dire.
Parce que j'ai fait ce que je veux.
Ou j'ai rendu le plaisir un Dieu.
On s'est substitué à Dieu à un certain moment.
À un moment, j'ai dit Dieu, il a dit ça, moi je dis ça, donc je fais ce que je veux.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc il y a eu un autre Dieu. Un Dieu, c'est un décideur. Il y a eu un autre Dieu dans ma vie.
Moi j'ai décidé ça. Ça c'est quelqu'un qui veut ça, les haris peut-être.
Non, pas forcément les haris.
Quelqu'un qui fait une averastam, on dit que un adam chotel avec un mirasam bourouach, c'est-à-dire qu'il fait ça.
Oui.
Sans réfléchir vraiment.
Bien
il
sûr.
Il fait pas ça parce qu'il se considère comme un dieu. Il fait ça parce que malheureusement les sarats étaient plus forts que lui.
Il savait que c'était interdit. Voilà.
Ce que je fasse.
Maintenant, encore je précise. On n'est pas en train de parler du dîn.
Oui.
Comment on sera jugé? Vous inquiétez pas, on ira tous au Gan Eden.
Ah, non.
Oui, parce que si vous...
Alors, c'est vrai.
Hein? Non, parce que regardez, si vous suivez le mode Rosh Hashanah, on te dit 51% de mérite, tu vas au Gan Eden. 51% de mérite, t'as plein de sadiques. D'accord ? Ah oui. 50% t'es Benoni et 49% donc c'est facile. Je pense que les gens qui sont ici autour de la table ont plus que, si on décompose leur journée en 100%, ils ont plus que 49% de la journée qui était bonne. J'espère en tout cas.
Oui. Ça dépend.
Quoi, ça dépend ?
Tu travailles tout le Torah chaque minute.
Non, tu travailles.
Attention.
Attends, tu travailles. Non, c'est pas une avéra, tout le Torah. Non, attendez, c'est une mitzvah de travailler. J'étais bien, t'as assez mal à ras. Faut travailler.
Le matériel à Tfila.
Bien sûr. Donc c'est clair que les 51%, c'est sûr qu'on les a. La question n'est pas là. D'accord ? Seulement, qu'est-ce qu'on explique ici ? Ce qu'il veut expliquer ici, c'est que c'est quoi la définition d'une avéra ? Une avéra, c'est transgresser à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc finalement, on n'arrête pas de parler depuis le début du Tania des forces du mal. C'est quoi les forces du mal ? Les forces du mal, c'est qu'ils disent « Dieu, il a dit ça, nous, on n'est pas d'accord ». D'accord ? D'une certaine manière, moi, quand je fais une avéra, je suis comme les forces du mal. D'accord ?
Hein ?
C'est la même chose. Quelle différence ? C'est quoi une force du mal ? C'est quoi le Yetzerara ? C'est quoi le Satan ? Le Satan, c'est Dieu, il a dit ça, moi, je dis ça. Eh bien, moi, c'est la même chose. Dieu, il a dit ça, moi, je dis, je vais faire une avéra. Donc, ça veut dire qu'il veut nous montrer à Dmourazaga que d'une certaine manière, l'Avodah Zara, ça peut être nous-mêmes. Je peux être moi-même quelqu'un d'Avodah Zara. De manière très fine, bien sûr. Attention, hein. Faut pas, oui, ne sortez, je veux pas qu'on sorte du cours aujourd'hui, on dit, bon, ça y est, on est idolâtre. C'est pas ce que j'ai dit.
Non,
mais c'est pour nous montrer à quel point, le deuxième commandement est la base de toutes les mitzvot. Quand on te dit, tu n'auras point d'autre Dieu, ça veut dire, tu n'auras point d'autre volonté à part Akadosh Baruch Hu. C'est ce que ça veut dire.
Alors, j'ai juste une question. Mais comment ça se fait que la sanction n'est pas la même que toutes les avérotes ?
Alors, encore une fois,
chaque avérote, c'est Avodah Zara.
On ne rentre pas dans les sanctions.
Pourquoi la sanction est différente ?
Parce que.
Ce n'est pas que c'est pas
par rapport à parce que
la mission.
Par rapport aux répercussions qu'il y aura de la avéra, les répercussions ne sont pas les mêmes.
Plus important que l'autre.
Je donne un exemple. C'est comme si, imagine-toi, par exemple, il y avait un pot de peinture qui était posé, par terre. Avec un pinceau. Et on a donné l'ordre à un adulte, on a dit ne touche pas au pot de peinture. Il a touché maintenant. Alors qu'est-ce qu'il en a fait ? Soit il a badigeonné tout le mur, soit il a mis juste une petite tache. Mais même la petite tache, c'est un problème, parce qu'on t'a dit de pas toucher. Mais après, par rapport aux répercussions de ce qu'il a fait, ça peut être plus grave ou moins grave. Mais, d'une certaine manière, le fait même qu'il a fait alors qu'on lui a interdit, c'est déjà grave. On te l'a interdit, tu l'as fait. Après, les détails, les nuances, est-ce qu'il a fait beaucoup ou un peu ? Ça, c'est des détails. Mais concrètement, une avéra, ça peut être même une petite chose. C'est ce qu'il va expliquer ici. C'est qu'il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Donc là, il va expliquer comment vraiment, on est tous concernés par ça. Personne ne peut dire ici, je ne suis pas concerné par Avodah Zara. Avant de venir à ce cours, on aurait pu penser qu'Avodah Zara, l'idolatrie, bon, c'est un truc qui ne nous parle pas. Eh ben non, maintenant on a compris que c'est pas ça, Avodah Zara. Avodah Zara,
c'est aussi ça.
Ça veut dire avoir une autre volonté à part Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Alors dans les mots. Véload, je vais sauter quelques lignes parce que j'ai expliqué à l'oral. Il va nous expliquer comment, en vérité, d'une certaine manière, quand je fais une avéra, je suis en bas de la page 295. D'une certaine manière, quand je fais une avéra, je suis encore plus grave que les forces du mal. Tu entends, Serge ?
N'exagérons pas.
Je suis plus grave que le Satan en personne. Pourquoi ? On va prendre sur la tête aujourd'hui, je vous préviens.
Au moment de l'avéra ou même après ?
Non, mais je vais vous dire, vous savez, on a ceux qui sont pas là, c'est qu'ils devaient pas entendre ce qu'on va dire maintenant.
Ah, carrément, c'est un gamin, toi.
Parce que, ils étaient pas prêts à entendre ce qu'on va dire maintenant. On rentre pas dans des grandes théologies, mais on va prendre sur la tête. Là, il va nous expliquer maintenant. Déjà, il nous a expliqué qu'on est tous idolâtres, tu vois. Là, d'emblée, bon, on a commencé, tu vois. Il t'a dit, t'as une volonté externe à part Dieu, t'es idolâtre. Sa idolâtrie, c'est avoir un autre Dieu, c'est-à-dire avoir une autre volonté à part Dieu. Bon, d'accord. Maintenant, il va dire encore plus loin que ça. Il va dire d'une certaine manière, il va expliquer que un juif qui fait une avéra, surtout quand c'est un religieux qui fait une avéra, c'est encore plus grave que les forces du mal en personne. Pourquoi ? Il va expliquer, on va dire quelques lignes. Véload n'est pas seulement ça. Et là, chez Bethelim, Utfelim, Elea, Ugruim, Frutim, Imena, Meod. Il dit quelque chose de très simple. Il dit, Kihim Eina Melubeshet Beguf Khumri, Veyodat et Ribona, Veina Moredet Bo, Lifol Pulata, Mishlachat Malacharim Shela, Shelo Bishlichutu, Shelmakom, Baruch Hazeshalom. J'accélère, mais je vais expliquer tout de suite. Il dit, nous, on n'arrête pas de dire les forces du mal, les forces du mal, les forces du mal. Mais qui c'est qui les envoie, les forces du mal?
Hachem.
C'est Hachem.
Non.
Mais, nous, attends, nous. Attends, doucement, d'accord. Mais les forces du mal, le Satan, qui c'est qui l'envoie?
Non, au début, c'est Hachem.
C'est Hachem qui l'envoie.
Ah ouais, il a tout fait. Il a
alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. Le Satan, à aucun moment, fera quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Et même si en cours de mission, on l'envoie pour faire une mission, il va se lâcher, d'accord? Et en cours de mission, on lui dit, stop, arrête mission. Et ben, il s'arrête. Ça, c'est comme les missiles qu'ils envoient. Là, ils envoient les missiles jusqu'à la dernière seconde, il peut arrêter, peut tout exploser. Et ben, le Satan, c'est un robot. Le Satan, Dieu, il l'envoie jusqu'à la dernière seconde, même s'il était content d'aller faire ce qu'il allait faire, peu importe, d'accord? Jusqu'à la dernière seconde, Dieu, il lui dit, arrête-toi, il s'arrête. C'est-à-dire, tu vois, on va essayer de se comparer au Satan. Tu vois, le Satan, aussi méchant qu'il t'a l'air, et les forces du mal aussi méchants qu'ils ont l'air, c'est pas seulement qu'il peut s'arrêter. Ils font la volonté de Dieu.
Pas de libre arbitre.
Ah. Ils font la volonté de Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande. Donc ils font pas d'Avera. Nous, au début du cours, on croyait que Avera est égal mal. Donc on a dit, ah, le mal, le Satan, c'est le mal. On a dit non. Avera, c'est pas le mal. Avera, c'est transgresser une volonté. Est-ce que le Satan transgresse une volonté de quelqu'un? Non. Le Satan transgresse la volonté de personne. Le Satan, il fait exactement la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Donc le Satan est un tzaddik. Il est dans son rôle.
On va le tuer alors à la fin.
D'accord? Ça, c'est une autre question. Mais lui, le Satan, il est dans son rôle.
Ouais, de là,
Attends, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Le Zohar, il amène un exemple qu'on avait expliqué, dans le chapitre 7, cet exemple. On va dire le Chaim. Ça fait quand même une bonne année qu'on a étudié ça, donc je vais vous rappeler un exemple qu'il amène dans le chapitre 7. C'est l'exemple de la prostituée. Hein? Il y a peut-être des fenêtres qui ne sont pas bien fermées, il faut juste tirer un peu. Alors, l'exemple qui arrive dans le chapitre 7, qui est appelé l'exemple, c'est un exemple du Zohar. L'exemple de la prostituée. Il y avait une fois un roi qui voulait tester son fils, le prince, pour savoir est-ce que son fils était vraiment quelqu'un de bien. Il avait l'air quelqu'un de bien, mais le père, il avait peur. Comme son fils, il a beaucoup d'argent entre les mains, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il lui a mis une bourse, une belle bourse comme ça. D'accord? Il s'est arrangé pour que le fils, il tourne à côté des maisons de... D'accord? Des maisons closes. D'accord? Mal fréquentées. Et il a payé une femme, une prostituée, pour aller tester son fils. Il a payé pour ça. Donc elle vient, bon, parée, etc. Enfin, parée ou... D'accord? Voilà. Elle vient dans son meilleur appareil possible, tenter, d'accord? Pour essayer de le tenter. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle va essayer. Peut-être le fils va tomber, peut-être le fils va pas tomber. Qu'est-ce qu'elle veut, cette prostituée? Elle veut que le fils y tombe ou que le fils y tombe pas?
Non.
N'oubliez pas que cette prostituée, c'est un sujet du roi. Et que les sujets du roi, ils aiment le roi. D'accord? Ils veulent pas qu'on casse l'honneur du roi. Mais elle n'a pas le choix. Ça veut dire que si maintenant elle va faire tomber le fils, est-ce qu'elle aura une punition, cette prostituée?
Non.
Elle sera payée. Alors que le fils du roi, qu'est-ce qui lui arrivera? Je sais pas s'il sera en vie, lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Ce qui vient de se passer ici, c'est que nous, on croyait que cette prostituée était en train de faire du mal, parce que ça nous paraissait quelque chose de mal, alors qu'en vérité, elle était en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc elle n'a pas enfreint, elle n'a pas transgressé la volonté de la volonté de son roi. C'est exactement la même chose. Quand on parle du Satan, quand on parle de l'ange de la mort, quand on parle du Yetzirah, le Yetzirah, il est dans son rôle. Son rôle, c'est d'être le méchant. C'est comme vous voyez un film, et dans un film, il y a un bon acteur et un acteur méchant. Est-ce que l'acteur méchant va le punir? Il va être payé pour ça. Il est payé pour son rôle, mais il est méchant, mais il est payé pour ça. Hein? Il est très bien payé. D'accord? Parce que c'est dur de faire le méchant. Pourquoi il est payé? Parce qu'il est dans son rôle. D'accord? Donc là, où il veut nous amener ici? Il veut nous amener ici en expliquant qu'en vérité, d'une certaine manière, moi qui fais une avéra, c'est encore plus grave que le Satan. Parce que le Satan en personne, quand il fait son mal, il ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dès que Dieu lui dit stop, il s'arrête. Dès que Dieu lui dit avance, il avance. Alors que moi, même si je fais une petite avéra, mais cette petite avéra, c'est moi qui l'ai décidée. C'est pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu.
C'est mon Yeshara qui m'amène à faire ça. C'est pas le Satan qui me pousse à le faire.
On raconte que, ouais. Bah oui.
C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire.
C'est moi, bien sûr, c'est moi. Les gens, ils font une mitzvah, ils disent j'ai fait une mitzvah. Ils font une avera, ils disent c'est mon Yetzirah qui a fait la avera. Pourquoi quand t'as fait une mitzvah, t'as dit c'est mon Yetzirah qui a fait la mitzvah?
Non, on le dit jamais.
Alors.
Une avéra, c'est moi et Tarara, c'est l'autre, tu vois. Le mitzo, c'est moi qui ai fait la mitzo.
Il veut pas que les allons.
Un problème. Bon, on raconte qu'il y a un des Gdolé Israël, un des grands d'Israël, lorsqu'il était enfant, il était un peu voyou comme ça. Bon, comme les enfants, quoi, il était un petit peu agité. Et lorsque son père lui dit, écoute, il faut que tu te calmes, arrête-toi. Alors son père lui dit, papa, qu'est-ce que tu me veux, j'ai un Tarara? Alors son père, il lui a dit, au contraire. Et c'est le fils qui a raconté par la suite, il a dit, au contraire, il faut que tu apprennes du Yitzhara. Il dit, regarde le Yitzhara, avec quelle passion et avec quelle assiduité il accomplit sa mission pour écarter l'homme du droit chemin. Est-ce que toi aussi, tu accomplis ta mission avec la même assiduité que le Yitzhara? Il a dit, apprends du Yitzhara, avec quelle assiduité tu dois avoir ta mission. Le Yitzhara, il clash pas. La moindre petite fenêtre qu'il a, pac, il tombe dessus. Est-ce que moi aussi, je suis comme ça pour les mitzvot? Ça veut dire que le Yitzhara ne fait qu'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Yitzhara ne fait pas d'Avera. Le Yitzhara n'enfreint pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Yitzhara ne fait pas Avodazara. Moi, je fais Avodazara. Parce que le Yitzhara, il fait exactement ce que Dieu demande. C'est un peu dur à entendre, mais c'est la vérité. Oukmahamar Bilam. Vous vous rappelez Bilam? Allez, tiens, on va parler de Bilam. Ah, Bilam, le mal, il voulait nous maudire. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Balak, il a convoqué. Et il a dit, je te paye tout ce que tu veux. Et Bilam, il s'est dit, bon, je vais essayer de trouver le bon moment, etc. Concrètement, dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé?
Il nous a bénis.
Il les a bénis. Alors Balak, il a changé de position, etc. Et après, à la fin, au bout de trois fois, il y a Balak qui appelle Bilam et qui lui dit, mais écoute, je t'ai appelé pour les maudire, t'es en train de les bénir. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il répond Bilam? Il dit, l'Ochal avorat Hashem. Il dit, mais je t'avais dit. Je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. C'est-à-dire que même Bilam, qu'on appelle le rachat et tout ce que tu veux, il ne peut pas enfreindre la volonté de Dieu. Alors que moi, j'enfreins la volonté de Dieu. Quand je fais une avéra.
Il va
arrête tout. Hein.
Il va pas dormir ce soir. Hein. Faut arrêter tes petites sorties.
Hein? Alors quoi, on est idolâtre, on est pire que Bilam, on est pire que Satan, on est pire que les Tzara. Qu'est-ce qu'il nous reste?
On l'a tué.
Hein? Pas tant qu'à faire. Hein?
Pour en donner.
Hein, monsieur Barreau, qu'est-ce qu'on va devenir?
Pas grand-chose, il reste.
Il reste pas grand-chose, hein?
Non.
Bon, il faudrait peut-être se concentrer. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Comment, quand on fait une mitzvah, hein, on est plus fort que les malachim, plus fort que tout le monde, plus fort que les anges, plus fort que les tzadikim au Gan Eden. Comprenez, c'est rien contrat. C'est-à-dire, d'un côté, quand je fais une avéra, je suis plus grave que tout le monde, parce que j'ai décidé de la faire. Mais d'un autre côté, quand je fais une mitzvah, je suis plus important que tout le monde. C'est-à-dire que personne peut atteindre le niveau d'un juif qui fait une mitzvah ici-bas dans ce monde-ci. Il y a un mot dans le Zohar qui dit que les malachim, ils sont jaloux quand ils nous voient en train de faire des mitzvot.
Les malachim.
Malachim, ils sont jaloux. Ils sont jaloux?
Ils ne peuvent pas les faire.
Ils ne peuvent pas accomplir. Donc ils sont jaloux, bien sûr qu'ils sont jaloux. Une bonne jalousie, une jalousie positive.
Oui.
Si on accomplit une avéra, bon, on sait que la conséquence va être positive et qui va déboucher éventuellement sur une mitzvah.
Par exemple,
comment ça se passe?
Ça ne change pas, c'est assourd.
Même si le résultat final est une mitzvah?
On ne peut pas la verra pour arriver à une mitzvah.
Voilà,
exactement, par exemple.
Il va aller voler aux pauvres pour donner aux riches.
Et Robin des Bois.
Ah. On ne sait pas.
Hein?
Non, je ne pensais pas ça, mais pardon.
Non, mais ça peut être un exemple, vous avez raison.
C'est Robin des Arbres, c'est pas le Robin des Bois.
Alors, c'est assourd.
C'est assourd quand même, donc les cas de figure.
De toute façon, encore une fois, dès que j'ai transgressé la volonté de Dieu, c'est déjà trop tard, c'est fini.
D'accord. Qu'on est pire que Bilam.
Bon, alors seulement attendez. Non, c'est vrai.
Bilam,
attention, Bilam en mode prophétie.
Voilà.
Précisez. Bien sûr.
La prophétie, ça passe pas.
Maintenant, attendez, il y a un problème.
Bilam, le monsieur Bilam était terrible, c'est pas.
Monsieur Bilam en tant que personne était terrible, c'est sûr. Mais Bilam en tant que prophète, il faisait que accomplir la volonté de Dieu. D'accord. Alors, tu as raté la suite. Alors, donc, maintenant, sauf que c'est pas si simple. Parce que, concrètement, comment on appelle, par exemple, alors, la klipa, les forces du mal, comment on les appelle? On les appelle Avoda Zara. Zara en hébreu, ça veut dire quoi? Pas H&M, Zara. D'accord? Il y a H&M, il y a Zara. Alors, c'est quoi Zara? D'accord? Zara en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire étrangère. Donc, tu me dis un service étranger. Donc, c'est étranger à Dieu.
qu'est-ce que tu es en train de me raconter depuis tout à l'heure? Tu me dis que même le Satan, même la Vodazara, même le Yitzhara, même tout ça, même la Klipa, même les forces du mal. Tu m'as dit en vérité, c'est pas du mal. En vérité, ils font que accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ils font quoi accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Tu peux mettre 10 kilos et on les finir.
Oui, bien sûr. Hein? Je peux pas t'arrêter.
Il faut faire un compteur, tu vois, devant chacun un compteur, combien de. Ouais. Ah, c'est comme ça, c'est, t'inquiète pas. Alors, je reprends. Tu es en train de. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, tu m'as expliqué qu'en vérité, moi qui fais une avéra, je suis plus grave que les forces du mal. Pourquoi? Parce que les forces du mal, tu m'as dit, eux, ils font qu'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu les appelles Avodah Zara? Pourquoi tu l'appelles un service étranger? Il n'est pas étranger. Il ne fait qu'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit le mot Zara, Zara, ça veut dire qu'il est étranger.
À nous?
Oui, mais quand tu dis étranger à Dieu. Alors, en d'autres termes, si vous voulez, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'à un moment donné, le Satan peut devenir mauvais? Vraiment mauvais.
C'est un malarchement.
Est-ce que du coup, à ce moment, il peut se prendre au jeu? Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. On va reprendre l'exemple de la prostituée tout à l'heure. La prostituée que le roi a envoyée. Au début, la prostituée, elle veut pas que le fils y tombe. Elle fait son travail, d'accord? C'est d'essayer de le faire tomber. Mais est-ce qu'elle veut que le fils y tombe? Elle veut pas que le fils y tombe. Mais est-ce qu'à un moment, elle peut se prendre au jeu et à un moment, oublier pourquoi elle est là? Et du coup, ben, prendre du plaisir et vouloir faire tomber le fils. Et pour elle, c'est un plaisir de faire tomber le fils. Est-ce que ça peut arriver à un moment comme ça?
C'est le mauvais, oui.
Alors, la question que je pose ici, c'est est-ce qu'à un moment, c'est si tu veux, Dieu il a créé le mal pour nous tester. C'est vrai que le mal au début il fait la volonté de Dieu, mais est-ce qu'à un moment, Kaviarol, le mal peut échapper à Kadosh Baruch Hu? Comprenez, vous me suivez? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est une grande question, ça.
Ah non, parce qu'il ne sait pas, c'est qui contrôle tout.
Ça dépend qui contrôle.
Tu parles des juifs, bah,
d'accord, ça dépend qui contrôle le mal.
Il a créé, il le contrôle.
Tout ce écoutez, tout ce qu'il a créé, le qui c'est qui a créé Paro? Le concept de Paro, qui c'est qu'il a créé? C'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est possible qu'à un moment, ça lui a échappé? Paro est parti trop loin. C'est possible?
Bah, la volonté, s'il n'a pas respecté les commandements, la volonté d'Hachem, oui, il est parti.
Est-ce que le Satan peut aller, par exemple, plus loin que ce qui était prévu?
Normalement, non, parce qu'il arrête quand il veut. Tu as dit qu'il est comme un robot.
Non, on a dit que Dieu, on a dit, d'accord. Là maintenant, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on a dit que c'est ma machin robot. Ça veut dire que quand Dieu lui dit s'arrête, il s'arrête.
Ah, ouais,
le problème, c'est qu'on a des textes qui vont nous amener ici de l'Agmara et d'autres, dans lesquels on a l'impression que, voilà, on appelle ça les forces étrangères, on appelle ça le mal, on appelle ça, et vraiment le mal, pas celui qui a un rôle mauvais dans un film. Le mal! Alors, est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, est-ce que c'est possible qu'au début, le Satan avait seulement un rôle mauvais dans un film, et qu'après, avec le temps, il est devenu mauvais? C'est un peu, si vous voulez, l'acteur qui s'est pris au goût du mauvais jeu, et du coup, il est devenu mauvais.
Mais le Satan est différent en fonction de la personne, on est d'accord?
Oui.
C'est la personne qui va donner la force à son Satan.
D'accord.
Et donc, mais... étant donné que la personne a un libre arbitre, le Satan automatiquement a également un pouvoir qui échappe à Dieu.
Mais est-ce qu'à un moment, les forces du mal peuvent nier la présence d'Akadosh Baruch Hu?
Nier, je ne sais pas.
Mais dis, est-ce qu'ils ont une prière?
Bien sûr.
C'est marqué que quelqu'un qui faute souvent, cette avéra n'a à se bloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzarara est devenu tellement fort pour lui qu'il n'a plus de contrôle. Ça va au-delà de ce que Dieu voulait pour cette bonne
âme. C'est déjà naturellement.
C'est lui qui s'est provoqué.
Ouais. C'est vrai? D'accord.
C'est devenu une deuxième nature.
Alors on va développer. Vous allez voir que c'est un peu nuancé ce qu'on va expliquer aujourd'hui. C'est un peu nuancé par rapport aux forces du mal. C'est pas si simple qu'on le croyait. Alors on va reprendre les mots maintenant. Ve'af shenikra. Marcel, il va nous dire où on est.
Ah, l'avant-dernier à gauche.
Le pistache. Alors.
Ve'af shenikra.
L'avant-dernier.
Le pistache, j'aime pas ça en fait. C'est la raison.
Ve'af shenikra.
Bien que.
Ve'af shenikra avodah zara. Tu vois, par Marcel, tu vois, il y a des gens qui pensent qu'amener des pistaches, il y en verra.
Ouais, ben voilà, lundi prochain.
Tu vois, toi, tu voulais bien faire, mais il y a des gens pour qui les pistaches, il y en verra. Ve'af shenikra avodah zara. Bien que c'est appelé avodah zara. Avodah zara, ça veut dire un service qui est étranger. Comment tu peux me dire que la Avodah Zara, en vérité, elle ne fait qu'accomplir la
volonté
d'Akadosh Baruch Hu? Tu l'appelles Avodah Zara. Zara en hébreu, ça veut dire quoi? Étranger. D'ailleurs, Karoulé et Lakad et Lakaya. La Gemara dit clairement que les forces du mal se sentent être une force. Ah, quand on leur parle de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire oui, Dieu, c'est la force de la force. Mais nous, on est la force. Comme Paro. Comme Paro. Paro, on dit que Paro, il croyait en Dieu. Mais Paro, il disait, Dieu, il est très grand et tout en haut, mais moi, après, Dieu, c'est la force de la force. Et Karoulé, Elakad, Elakaya. Il appelle le Dieu des dieux. Et ça, c'est les forces du mal. Donc tu vois, mec, les forces du mal, elles ne sont pas si cachères que tu croyais. Ça veut dire que c'est pas, peut-être qu'au début, on leur a donné un mauvais rôle, mais après, avec le temps, tu vois, mec, elles sont prises dans un jeu, et du coup, maintenant, bah, elles se disent, on est un Dieu nous-mêmes. Seulement, il y a un Dieu qui est plus fort que nous, mais nous aussi, on est un Dieu. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, les forces du mal ne sont pas un peu prises au jeu? Ce qu'il va expliquer ici. Ve'eina mi'cholim la'avor klal rotonoit barer, ki yodim umasigim she'u chayutam ve'kayumam, she'yunki miprinat achorayim d'achorayim. Il te dit, pas du tout. Il te dit, même les forces du mal qui se considèrent comme étant une force très très forte et qui se considèrent comme être même comme un dieu, mais au fond d'eux, ils savent qu'en vérité, celui qui les cite, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est un peu comme Bilam. Bilam, il a fait le malin, il a fait le malin, il a fait le malin, il a fait le malin. Mais au bout du compte, quand tu la mets devant le mur, qui c'est qui décide? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'il a fait le malin, c'est la question d'Abraham. Il a fait le malin. Et ça, tu pourras pas lui enlever qu'il a fait le malin. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Bilam, Akadosh Baruch Hu, il a créé un prophète. Seulement, Bilam, il s'est pris au jeu. Donc, du coup, il s'est pris au jeu, mais concrètement, même s'il s'est pris au jeu, dès que tu le mets au pied du mur, bah, il te dira, bah, écoute, je peux rien faire. C'est la même chose pour tout ce qui est Avodah Zarah, tout ce qui est les forces du mal. Tant que tu n'es pas devant le pied du mur, il va dire oui, moi je peux tout faire, moi je vais te faire, moi je vais donner, moi je vais donner, moi je vais donner. Dès que tu l'amènes au pied du mur, tu dis alors vas-y donne-moi. Il va dire ben écoute, tu sais en vérité, il faut que je consulte mon supérieur. Et le supérieur c'est qui? C'est la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que même les forces du mal sont conscientes à chaque instant qu'il y a Kadosh Baruch Hu et que c'est lui qui leur donne. Et là, mais achar shi nikatam vechayutam shi betoram prinat galut betoram. J'accélère parce que j'expliquais à l'oral. L'archi vatzman elokut varizot fira bar duto avec mikol makom enam kofrim vekarashu hashem legamrei. Ok. Alors c'est intéressant ce qu'il dit ici. Vous savez que il y a une différence. Et là, je voudrais m'arrêter un peu par rapport aux 10 commandements. C'est écrit dans le premier. C'est quoi le premier commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu. Il y a deux mitzvot. Première mitzvah, c'est de croire en Dieu. Et deuxième chose, c'est de croire en l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. J'explique ce que je veux dire. Imaginez par exemple que quelqu'un y croit, qu'il y a un Dieu, mais que ce Dieu, il a un fils. Et que ce fils est devenu aussi un Dieu.
Ah oui, quand même.
Il y a des gens qui pensent comme ça?
Bien sûr.
Hein? Il y a beaucoup, hein? Et des millions. Des milliards. Bon.
C'est un Juif, il aura dit, hein?
D'accord. Eh ben.
En plus.
Alors, c'est ce qu'on appelle chitouf. C'est ce qu'on appelle chitouf. Chitouf en hébreu, ça veut dire association. Il faut savoir que pas tous les avis sont d'accord que pour les goyim, c'est la source. Tant qu'ils croient en Dieu. C'est marocain en Shouchan Aruch.
Ah ouais?
Oui. Pas pour nous, ouais. Pour les goyim.
De quoi? Qu'est-ce
pas... est-ce que le chitouf, c'est la source?
D'accord.
Est-ce que ça veut dire, est-ce que le Issour, parce qu'ils croient en Dieu, ces gens-là. Ils disent, pas qu'il n'y a pas Dieu. Ils disent qu'il y a un Dieu, mais ils disent qu'il y a un fils, etc. Voilà. Dieu, ouais. Ça veut dire qu'ils ont mis le fils de Dieu au niveau de Dieu. Donc, du coup, ils ont associé quelque chose à Dieu.
Non, parce qu'eux, ils l'ont vu, ils ont vu le fils, mais pas Dieu. C'est pour ça qu'ils disent le fils de Dieu, en fait.
Donc, qu'est-ce que, c'est une grande machloquette.
Il y a encore un troisième.
C'est une machloquette. Oh, oui, bon, enfin bon, peu importe.
Oui, lequel?
Ah, c'est un, oui.
Il y a sa mère aussi.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle la Trinité.
Bon, on va pas parler de ça maintenant.
Il n'a pas de père, il fallait trouver aucun père.
Donc, je reprends. La question est la suivante. Est-ce que, quelle est la mitzvah de croire en Dieu? Parce que eux, ils croient en Dieu. Tu peux pas dire qu'ils croient pas en Dieu, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils disent, Dieu, il est associé avec quelqu'un. Ils ont fait une association de, ils sont à trois, quoi. D'accord? Nous, on dit qu'il y a un, ils disent qu'ils sont à trois. C'est une marloquette à Poski, une marloquette entre les décisionnaires, pour savoir, est-ce que pour un goy, c'est assour, ça? Rambam, il tranche que Bémet, c'est assour. Mais il faut savoir qu'un avis en Shulchan Aruch, il dit que c'est pas assour. Donc c'est pas si simple. Pour nous, les juifs, c'est assour. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, c'est quoi Avodah Zarah? Le maximum du jeu dans lequel il peut se prendre la Avodah Zarah, c'est quoi? C'est de dire, à la base, il était parti pour une mission, que bon, Dieu, il a dit, je t'envoie moi en mission, tu fais ma volonté. Après, à un moment, il peut se prendre dans le jeu, que du coup, il va dire, bon, du coup, je suis associé à Dieu. Mais à aucun moment, il va dire, il n'y a pas Dieu. Ça n'existe pas. Même la plus grande force du mal, personne ne te dira, il n'y a pas Dieu. Ça n'existe pas. C'est ce qu'il dit. Même la plus grande Avodah Zarah, personne ne dira, il n'y a pas Dieu. Il dira, il y a un grand Dieu, mais moi aussi je suis un Dieu. Donc ça va, on est à part égal, ou lui il est grand, moi je suis petit, ou on est égal. Personne te dira, il n'y a pas Dieu.
Pas dans la même division.
Alors que moi, ouais. Quand je fais ma avéra à moi, et que Dieu m'a dit, non, tu le fais pas, et moi j'ai dit, oui, je le fais, et que je fais la avéra à 100%, pas à 50%, eh ben j'ai effacé Dieu
de ma vie pendant ce quart d'heure pendant lequel j'ai fait la vera.
Mais est-ce que pour dans les autres
forcément,
lignes...
Forcément, s'il n'y aurait pas d'Avera.
Forcément, s'il n'y aurait pas d'Avera.
Ben oui.
Est-ce que les musulmans, ils ne sont pas...
Non, les musulmans, ils sont pas, les musulmans, ils sont pas idolâtres. Parce non. que les musulmans, ils croient en un Dieu, mais ils croient au prophète. Le prophète, c'est une manière d'accéder au Dieu. Ce n'est pas une trinité.
Mais alors la question, dans, que ce soit pour les catholiques, apostoliques romains ou les musulmans ou les protestants, etc., peu importe, le courant et les courants...
Et le Coran, ouais.
Non, et les courants, pas les courants. Est-ce que... la conception qu'on a, nous, du Yesser Hara, est-ce que pour eux, dans la Guémara et dans le Zohar, est-ce qu'ils la définissent de la même manière pour eux ou pas?
C'est-à-dire, est-ce qu'on le définit comme les goïms?
Oui. Est-ce qu'on leur définit un Yesser Hara équivalent au
Zohar? Justement, pas du tout.
De la même manière ou
pas? Vous voyez, par exemple, alors, je ne vais pas rentrer, c'est pas mon cours aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dedans. Dans la culture des goïms, le Satan, etc., avec la foi, tout ça, voilà, ça, pour eux, c'est le mal absolu.
Ouais.
Pour nous, non, c'est pas.
Il est détaché de Dieu.
Ah oui, il est détaché de Dieu. Comment on appelle ça? C'est un électron libre. À la limite, c'est un électron libre.
Ouais.
D'accord? Qui est là. Et qu'on a même l'impression des fois que Dieu se bat avec Satan.
C'est ça.
D'accord? Alors chez nous, dans la Torah, c'est pas ça. Chez nous, dans la Torah, Satan est un fonctionnaire de Dieu. Seulement, des fois, le fonctionnaire, bon, tu prends un peu dans le jeu, donc il dit oui, moi je décide aussi. Mais concrètement, tout le monde sait qu'au pied du mur, c'est Dieu qui décide.
D'accord.
C'est-à-dire que même Satan en personne, même le Satan en personne, tout le monde, personne n'enfreint au bout du compte la volonté de Kadosh Baruch Hu. Alors que moi, quand je fais une avéra, j'enfreins la volonté de Kadosh Baruch Hu.
C'est grave.
C'est horrible, hein.
C'est
la vérité, c'est la réalité. Les faits sont devant nous.
On n'est pas tous pareils, quoi. Tu peux pas quoi.
Non, on parle. Attendez, on parle pas de punition, pas punition. Vous inquiétez pas, on ira au Canada. Vous inquiétez pas, c'est pas.
Ça arrive, on n'a pas les.
Alors, regarde, on peut fermer les lits, on peut arrêter, on ira au Canada. Il n'y a pas de problème. C'est pas ce problème. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche à comprendre qui on est, quel est notre but. Et on cherche à avancer. Après, dans le Canada, on l'aura. C'est pas un problème, ça.
Mais quelque part, excuse-moi, tu dis que c'est assez grave, c'est que c'est HM qui t'envoie le Satan pour faire la vera.
Bien sûr. Comme le roi qui envoie la prostituée pour tester son fils.
D'un côté, on dit le roi, mitzvot et zakot et d'Israël. D'un côté, il nous envoie D'un côté, il veut nous faire du bien en nous donnant des mérites.
Mais c'est pour notre bien. Parce que chaque fois qu'on se retient de faire une avéra, on fait une mitzvah.
Ah oui, quand tu refuses d'avoir.
Bien sûr.
Est-ce qu'on fait une mitzvah?
Comme le fils du roi. Quand le fils du roi il s'est retenu, son estime a augmenté devant le roi. Il a montré que c'est vraiment quelqu'un de bien.
Ne pas transgresser, ne pas faire une mitzvah.
C'est une mitzvah.
C'est une mitzvah de ne pas faire
une mitzvah. Ne pas transgresser, c'est faire une mitzvah.
Bien sûr. Quand je transgresse pas une avéra, je fais une mitzvah. C'est-à-dire quand la avéra se présente à moi.
Chaque instant que je mange kasher.
Non. Attention. Faut que ça se présente et que je peux le faire et que j'ai envie de le faire.
Ouais.
Je sais pas.
Un macaron, j'ai la durée du.
Non, je prends pas la durée, je prends l'autre marque. Ouais. De chez l'ami.
Au meilleur.
Ils ont pas encore fait en cachère, ça?
Si, on va le faire.
Bientôt, si.
Bien,
Donc le rôle du Yetzirah, c'est juste de nous tester alors.
Le rôle du Yetzirah, c'est de nous tester.
C'est que ça.
De temps en temps, ce qu'on a expliqué, c'est que parfois le Yetzer Hara ou les forces du mal en général, ils peuvent se prendre au jeu et donc du coup avoir une fonction qu'ils se sentent eux-mêmes Dieu. Mais ils sentent que Dieu est le Dieu d'un Dieu. Jamais ils diront il n'y a pas Dieu. Et jamais ils diront c'est moi qui décide tout, ça n'existe pas. Jamais. C'est-à-dire dès qu'on leur dit Dieu a dit, ils disent bon si Dieu il a dit, le patron il a dit, dans ce cas-là on se tait. Alors que moi, le patron, il a dit, j'écoute pas.
Ça s'avérera, elle est très grave.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, Chaim, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est très grave.
Qu'est-ce qui va devenir de nous?
Ah oui,
c'est très grave.
Chaim.
C'est-à-dire que l'athée, c'est le pire.
Ça dépend. Non, c'est un athée bête.
C'est le mieux.
Mais l'athée, il a effacé le jeu.
Non, mais il n'a pas effacé, il ne sait pas ce que c'est.
Il ne sait pas, mais il ne sait pas.
Il n'a pas transgressé.
Je ne sais pas,
il n'a pas transgressé.
Ouais.
L'athée, si tu veux, c'est comme celui qui a pas de permis qui conduit.
L'athée,
j'ai dit, c'est comme celui qui n'a pas de permis qui conduit. Celui qui a son permis et qui fait une gaffe, c'est beaucoup plus grave. Tu connaissais?
Je suis curieux de savoir si un athée, il est athée toute sa vie. Je pense qu'il y a un moment ultime où il n'est plus athée.
Oh, c'est un grand mot athée.
Il y a quelqu'un la semaine dernière, à 60 ans,
jamais.
Il n'a jamais passé?
Ils ont dû l'arrêter par hasard.
Par hasard.
Ils ont conduit de bien.
Oui.
Ils ont donné son permis.
Donc il n'était pas assuré, certainement. Donc bon.
Évidemment.
C'est un tout. Et il doit être en train de conduire aujourd'hui. Alors. On va continuer. Donc il dit ici, Aval Mikol Makom, donc Velomar Lohu. Donc ça veut dire que jamais, jamais, même les forces du mal, jamais ils vont nier en Dieu pour dire, il n'y a pas Dieu. Jamais. Ils diront, il y a Dieu, il y a nous aussi, mais jamais ils diront, il n'y a pas Dieu. Alors que nous, on peut arriver à un niveau dans lequel on dit, il n'y a pas Dieu. Temporairement en tout cas. Alors, maintenant, ici il pose une question dans le commentaire qui n'est pas écrit dans Tania. Il dit, on a vu quand même qu'il y a eu des goyim, il y a eu des forces du mal, qui ont nié entièrement, à 100%, l'existence de Dieu. Par exemple, dans le Tanakh, dans la Bible, on raconte l'histoire de Sanhérib, le roi d'Assyrie. Et Sanhérib, je ne sais pas comment il s'appelait en français, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Sanhérib, le roi d'Assyrie, le roi de Ashour, et on dit que Sanhérib, lui, il a maudit Dieu. Oui, il a maudit.
Mais ça veut rien dire, ça veut dire ça quoi. Mais
en tout cas, il a insulté.
Torah, c'est marqué.
Hein, c'est un issour, c'est très grave. C'est possible. Il a blasphémé Dieu. Il a blasphémé Dieu. Il y a un problème. Tu viens de me dire que les forces du mal, comme Paro, comme Bilam, etc., tu viens de me dire que eux, jamais ils peuvent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils peuvent vouloir faire le mal, etc., mais au bout du compte, ils savent qu'il y a un patron sur eux, que le patron c'est Dieu. Voilà, rien n'est que ce parti très très long. Alors ici, il pose la question, et il dit que dans les forces du mal même, il y a juste un niveau, un pourcentage tout petit, dans les forces du mal, de ceux qui sont partis tellement loin, que là-bas, mamash, ils ont complètement coupé court avec Akadosh Baruch Hu. Alors, je ne sais pas quel exemple on peut prendre un exemple comme Hitler et Marchemo, par exemple, vous voyez, ça fait des gens qui ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu, ils ne sont pas tombés de la lune. Mais qu'à un moment, il y a un pourcentage infime qui coupe complètement les ponts avec Akadosh Baruch Hu, et là, c'est très très grave.
Mais c'est quoi, attends, c'est quoi?
Comme Sainte-Rive, et d'ailleurs, en général, quand ça arrive, c'est très très grave, c'est des catastrophes. Sainte-Rive, c'est lui qui a exilé toutes les tribus d'Israël. Il a exilé 10 tribus.
La majorité du peuple.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans le monde entier des milliards de personnes qui se baladent, qui descendent de juifs et qui ne savent même pas.
Ah oui, bien sûr.
Ah oui. Parce que la majorité du peuple a été exilée. Ils sont partout dans le monde. Non, ça même pas.
Mais attends, excuse-moi, tu parles tout à l'heure d'Hitler, excuse-moi.
Oui.
Si c'est, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, c'est le patron. Quand il veut, même le Satan, il peut l'arrêter à la dernière seconde. Hitler, il a vu qu'il s'est lâché. Il peut toujours dire stop. Attends, c'est comme Hachem qui.
Est-ce que la méchanceté d'Hitler, il marche moins. Est-ce que Hitler croyait en Dieu? Marche moins. Bien sûr que non. Ce qu'il explique ici, c'est qu'il y a des fois qu'ils se prennent à un jeu, ils vont tellement loin qu'à un moment, ils ont coupé court avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est très rare. C'est très rare. En général, dans les forces du mal, ils ne coupent jamais court avec Akadosh Baruch Hu. Ils font que accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que nous, quand on fait une avéra.
Le Pen, il croit en Dieu.
Sartre, c'est un imbécile.
Oui, vas-y, oui. Ah,
Oui, il croit.
Ils se sont créés des propres dieux.
Il est athée. C'est
pas ça. Oui, il est athée.
Ils sont catholiques.
Bon,
de toute façon, vous savez, ces gens-là, ils disent tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, hein. Faut être clair.
Oui, c'est pas sûr, on en pense.
Ah, voilà. Bon, enfin, peu importe. Et là seulement, sans rentrer dans la politique, etc., mais et là seulement, des caroulés, la cadet la caille, y'a d'aïnou, chayutam et kayuma, manim, charveyre d'alem, retsonit barer. Mais la reine, einam ovrim, retsonit barer, leola. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, les forces du mal ne transgressent jamais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, maintenant, on a bien compris. On a compris que c'est quoi la définition d'une avéra? C'est une transgression. Or, les forces du mal, en tout cas pour l'écrasante majorité, ne transgressent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que moi, quand je fais une avéra, je transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Veimken, si c'est ainsi. Adam over al retsono itbarer. L'homme qui transgresse, alors où on est? On est ici, je vous donne la page. Voilà, j'avance un petit peu.
Si je peux me permettre, c'est pire que ça. Adam.
Au milieu de la page 297.
Parce qu'un goy qui fait quelque chose comme Sainte-Rive ou Hitler, ça reste complètement terre à terre.
Alors oui.
Un juif qui fait une avéra, ça a des.
Ça a un impact, bien sûr. C'est
universel.
C'est pour ça que c'est très très grave. Et encore plus s'il est religieux. Encore plus si on est religieux. Veimken, si c'est comme ça, je suis au milieu de la page 297. Adam, moi je vous dis, ceux qui sont pas là ce soir, c'est qu'ils pouvaient pas entendre ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais c'est comme ça. Adam, over l'antonite barer, l'homme qui transgresse la volonté de Dieu. Hugarua, il est pire.
ou par chout méod, est moindre, plus grave, mais assi trahara, que les forces du mal, ou klipa, d'accord? Agnikret avodazara, il est plus grave que l'avodazara, velokim acherim, qui était plus autre Dieu, il est plus grave que tout ça. Et peu importe la faute que j'ai fait, même si j'ai fait une faute comme le Lashon Hara. Mais c'est là, qu'est-ce qu'il y a, je me suis lâché 5 minutes. Oui, et pendant ces 5 minutes, j'ai mis de côté la volonté de Dieu, et j'ai fait ma volonté. Pendant ces 5 minutes que j'ai fait du Lashon Hara, j'étais plus grave que le Satan en personne. Parce que lui, il fait la volonté de Dieu. Moi, je ne la fais pas. Pendant 30 secondes, je me suis laissé aller avec mes yeux, j'ai regardé des choses que je ne devais pas regarder. Je suis plus grave que le Satan. Oui, mais c'est que 30 secondes. Mais ça ne change pas. 30 secondes, tu n'as pas écouté la volonté de Dieu en vous. Et qui ne faute pas. D'accord ? Alors que moi, quand je fais une faute, je me sépare à 100% de Dieu. Au moment où je fais la faute, j'oublie Dieu, il n'y a pas Dieu. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme si que je suis en train de nier l'unicité d'Akadosh Baruch Hu plus que les forces du mal. Comme c'est écrit dans le Etzraim de Rabbi Chaim Vital, porte 42, sauf Perek Dalet, à la fin du chapitre 4. Shahara Shebaolam Azeachumri ou Shimre Aklipot Agasot. Je rentre pas dans les détails kabbalistiques, mais ce qu'il explique ici, c'est que le mal qu'il y a dans ce monde-ci, c'est que des shmarim. Vous savez ce que c'est shmarim? On dit que c'est la lie. Quand vous faites du vin, il y a la lie. C'est les dépôts. Alors il dit, même ce qui te paraît très très mal dans ce monde, c'est que des dépôts. C'est les dépôts. C'est-à-dire, c'est pas des choses que volontairement ils sont venus vous faire mal, etc. C'est les dépôts de choses qui sont venues pour se tester. Avec le temps, il y a eu des dépôts. Mais moi, quand je fais une avéra sciemment, c'est pas un dépôt. C'est un tonneau. Et je viens, c'est moi qui veux faire l'avéra. C'est pas un dépôt qui est venu comme ça tout seul. Vehu tachli tabirur. D'accord? Et donc, ça, il explique ici. Vehu tachli tabirur. Ça, c'est le but habirur du travail. Ça veut dire comme ça. Il dit, quel est mon travail quand je descends sur terre? Akadosh Baruch Hu, il a mis de la lie, qui est partie comme ça un peu partout. Et mon travail, c'est de la lie, c'est elle qui me pousse à faire la verrotte. Et mon travail, c'est de prendre cette lie et d'en faire du vin.
Une bonne cuvée.
Vous savez qu'avec des lions, on peut faire du vin? Il y a des Mishnayot qui en parlent.
Ah bon? Oui.
Bien sûr. Il y a un autre exemple aussi qui revient dans le Zohar. Il dit, bien sûr, on récupère.
Il a récupéré, il a rien jeté.
Il a rien jeté, il prend du vin avec. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, premier exemple que donne le Zohar. Vous allez voir où je vais en arriver. Deuxième exemple que donne le Zohar. Il dit, c'est comme si on a Kadosh Baruch Hu, il a créé dans la terre, il y a des mines de charbon, qui sont en vérité des mines, enfin, dans la terre, il y a des mines qui sont des mines d'or. Mais quand tu les vois, ils payent pas de mine, d'accord? Ça veut dire, quand tu les vois, ça vaut rien. D'accord? C'est du charbon. Et quand tu les travailles, là, tu vois que c'est de l'or. Le Zohar dit c'est la même chose. Il dit, nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie ici bas sur terre. Notre travail, c'est quoi? On a des choses qui nous paraissent mauvaises, comme de la lie, comme des mines de charbon. C'est un exemple, d'accord? Et moi, mon travail, c'est de les prendre, de les transformer, de les amener vers la Kedusha. Mais à aucun moment, ces mines de charbon se sont laissées aller ou ils ont voulu être mauvaises. Ils sont comme ça. Moi, quand je fais une avéra, je me suis laissé aller personnellement, sciemment et foncièrement, et j'ai voulu faire la vera. Donc, pour ça, par rapport à ça, je suis plus grave. Velachen, c'est pour ça. Kol maase ola maase kashim veraim, veareshaim govrimbo. Maintenant, il dit comme ça. Alors, il donne un exemple intéressant. Il dit, comment ça se fait que dans le ola maase, dans ce monde-ci, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, la suite on fera dans 2 semaines. Il pose une question, il dit, comment ça se fait qu'on voit que dans ce monde-ci, on a beaucoup de mal à servir à Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est très simple. On va prendre l'exemple du tonneau de vin. Où il y a le plus de dépôts de lit dans le tonneau?
En bas.
Non, c'est il peut en avoir dans les côtés aussi.
Oui.
Il peut en avoir.
Sur les parois.
Sur les parois, des fois, il y a de la lit. Oui. Mais la majeure partie de la lit se trouve où?
En bas.
Plus tu descends en bas, et plus tu as de la lit. D'accord? Alors il dit, le Zohar, c'est la même chose. Il dit, quand on est en haut, dans les Olamot et Lyonim, dans les sphères célestes,
c'est pur.
Il y a des fois un tout petit peu de lit, mais moi je le sens pas. Plus tu descends, et plus c'est de la lit. Maintenant, cette lit en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est un dépôt que tu peux récupérer. Mais quand il y en a beaucoup, tu vois que ça partout où tu vas. Tu arrives au fond du tonneau, il n'y a que de la lit. C'est-à-dire tu baignes dans la lit, tu vois, il n'y a plus de vin. C'est très difficile, t'en peux plus. Tu te dis, il n'y a pas de vin, il n'y a que de la lit. Imaginez-moi un grand tonneau énorme. Tu vas en bas, tu as des centimètres de lit, c'est énorme. D'accord ? Eh ben, il te dit, c'est la même chose. Nous, imaginez que nous, maintenant, le Olam Hazé, on est en bas, tout en bas. Et on baigne dans la lit. On baigne dans le mal. Et quand on baigne dans le mal, qui n'est pas en vérité du mal. À la base, c'était un dépôt qui est venu pour servir à volonté à cage banrou. Mais concrètement, on baigne dedans. Donc là, si vous voulez, c'est pour nuancer un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'arrête pas de dire, on a pris sur la tête, on dit Rechaim, c'est plus grave que tout. Mais là, si vous voulez, il veut un peu nuancer quand même. Il veut un peu nuancer, il va dire, oui, c'est bien facile de nous accuser. Mais d'un autre côté, quand on baigne dans la zut, et ben, on finit par, ça fait un désir, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Ouais. C'est un peu ce qu'il va dire ici. Et donc, ça nous amène au cours dans deux semaines, si Dieu veut, dans lequel il va parler de l'élément qu'Avraham a parlé tout à l'heure, de l'élément de la folie. Quelque part, les Averot, le Yitzhara, il nous rend fous. Et donc, ça va être pour nuancer. Là, aujourd'hui, on a expliqué que quand on fait une Avera, on a transgressé. Ce qui est vrai. C'est vrai qu'une transgression, ce qui est très grave. Mais il va expliquer la semaine prochaine qu'une autre manière, l'Avera, c'est aussi une folie. Et donc, quand il y a une folie, c'est difficile de parler de transgression. C'est une transgression, mais c'est difficile de parler de transgression préméditée. Donc, si vous voulez, dans deux semaines, ce sera le revers de la pièce.
Une question.
Voilà, donc conclure, juste pour conclure, parce que c'est d'accord. Conclure ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on explique aujourd'hui? Très simple, on peut définir en un mot. On a expliqué aujourd'hui comment le deuxième commandement, c'est quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu. C'est quoi un autre Dieu? Un autre Dieu, c'est une autre volonté à part Akadosh Baruch Hu. On a expliqué que le deuxième commandement est la base de toutes les avérotes. Pourquoi? Parce que c'est quoi une avéra? Une avéra, c'est pas du mal. Une avéra, c'est une transgression. Peu importe l'avéra que j'ai fait, c'est une transgression. Et avec ça, on est parti dans tout un développement pour expliquer que quand je fais une avéra moi, c'est plus grave que le Satan en personne, puisque le Satan ne fait pas d'avéra. Le Satan, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est du mal ce qu'il fait peut-être, mais c'est pas une avéra. C'est pas une transgression. Alors que moi, quand je fais une petite avéra, c'est une transgression. Donc par rapport à ça, ce que je fais, c'est la avéra que je fais, elle est plus grave que le Satan que tout. Mais néanmoins, on a terminé en disant qu'il ne faut pas trop nous juger non plus, parce que concrètement, il y a eu tellement de dépôts de lit, parce que les dépôts de lit qu'il y avait en haut, d'accord, ils tombent. Donc du coup, tous les dépôts de lit qu'il y avait, c'est-à-dire les petites nuances, etc., ils arrivent en bas, et donc du coup, nous maintenant, on n'est que dans la lit. Alors il ne faut pas s'étonner, bien sûr, quand on baigne dans la lit, ben, on devient mauvais, d'accord. Et partout, il n'y a que des halis. Alors, il n'y a que des halis partout. Ouais. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il t'explique que, concrètement, il faut nuancer tout ça, et il faut comprendre que c'est vrai que c'est grave, c'est très très grave faire une avéra, mais d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il est conscient que c'est très difficile pour nous. Et donc, la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, on va expliquer la notion de folie qu'il y a par rapport à l'avéra, et on va donner une technique aussi, comment combattre la folie du Yetzara. Voilà, donc, si vous voulez, le cours d'aujourd'hui, on a parlé au cerveau. Le prochain cours, on parlera au cœur. Là, on a parlé au cerveau. On s'est expliqué mentalement que faire une avéra, c'est une transgression et que c'est plus grave que les forces du mal en personne. Ça, on s'est expliqué mentalement. Le problème, c'est qu'on faute pas qu'avec la tête, on faute avec le cœur aussi. Maintenant, il faut parler au cœur. Il faut lui expliquer pourquoi il faute, pourquoi il part dans une folie, et pourquoi il faut lui trouver une contre-folie pour calmer ça. Mais ça, c'est dans des soucis.
Donc, la synthèse, vous ne faites plus d'avéra les enfants.
Ah bah, on a bien intérêt. Ouais. Voilà. C'est à vous d'Azara.
Oui, en plus.
Une Rome.
Vous voulez qu'on fasse
Si vous voulez, moi je peux pas faire, mais si vous voulez, je crois que on peut pas.
C'est Roche Kodesh.
On peut faire.